Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Bon Dimanche Show. Et quand je dis tous, je parle de toi, Jean-Claude. Et toi aussi, Séverine, bien sûr. Et toi, Raphaël, mais oui. Tiens, Patoche, t'as pu venir, ça fait plaisir. Et y a pas... Ah bah si, Gwendoline. Bah t'es là, bien sûr. Et toi, Sylvain. Et Gabriel, hein, dis donc. Ah, le Gabi, il est là.
RTL, 14h-15h30, le Bon Dimanche Show, avec Bruno Guillon.
Merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche 23 janvier et merci d'accueillir celui qui va faire son Bon Dimanche Show pendant une heure et demie, Monsieur Michel Bougenard. Bonjour Michel et bienvenue sur RTL.
Merci.
La semaine dernière, il suce sa petite pastille. Michel, la semaine dernière, c'est Marc Lavoine qui était assis à votre place. Et quand j'ai dit on va recevoir Michel Bougenard, il a fait après Michel Bougenard. Michel Bougenard, si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes au Théâtre des Variétés. Vous jouez l'avare de Molière. Nous allons passer une heure et demie ensemble. Et moi, ce que je vous propose là, maintenant, c'est faire une petite piqûre de rappel pour les auditeurs et les auditrices d'RTL qui seraient en train de se dire « Mais Michel Bougenard, voici votre biographie sonore, cher Michel. » Michel, pour retracer votre parcours, il faut remonter loin.
Le bon Dieu, quand il a fait la terre, il a fait l'eau, machin, tout ça, et ensuite... Il s'est dit, je vais d'abord faire les Tunisiens.
Et c'est en Tunisie, un 3 novembre, que le petit Michel voit le jour. Nous sommes en 1952.
Mexico.
C'est le numéro 1 du hit parade en France en 1952, Luis Mariano. Mexico. Vous n'avez même pas 10 ans quand vos parents s'installent en France, à Bagneux, au sud de Paris. Et là, la légende raconte... François, est-ce que tu peux me mettre une ambiance genre musique un peu légende? Voilà. La légende raconte que la révélation a eu lieu sur l'estrade d'une classe de l'école alsacienne de Paris. Vous présentez un livre, Le Dernier des Justes, d'André Schwarzbach, et en un instant, vous captivez votre auditoire. Et à cet instant, vous comprenez que votre place est là, devant un public. C'est bien raconté, il manque des enluminures en fait. À 20 ans, vous montez vos premiers spectacles pour les enfants, mais votre premier coup d'éclat, c'est un prénom.
Prénom Albert.
Albert, votre premier one-man show, largement autobiographique.
Ils sont partis de Tunisie. Pourquoi? On ne sait pas. Ils sont partis parce que ça partait. Comment? En avion, en bateau, même à la nage.
Et dès vos premiers pas en solo sur scène, on retrouve les thèmes qui vont jalonner votre carrière, la confrontation et la cohabitation des cultures. La même année, en 1980, vous jouez dans votre premier film. Alors 1980, Michel, c'est l'année de la boum, un titre plutôt simple. C'est l'année du guignolo également. Là, hop, on se dit c'est facile. Et vous jouez dans, attention... Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Voilà, le temps de dire le film, l'émission est quasiment terminée, merci Michel. On écoute quand même un extrait du film avec Robert Castel.
Un vrai patron doit toujours être ouvert au dialogue. On peut lui téléphoner même à la maison, s'il a le téléphone.
Le film dont la bande-annonce est plus courte que le titre, en fait. Toujours au cinéma, mais 5 ans plus tard.
Au clair de la lune, mon ami.
Trois hommes et un couffin, un film qui vous vaudra le César du meilleur second rôle. La suite se jouera sur ces deux tableaux. Sur scène, vous enchaînez les spectacles et les succès, à cheval entre le rire et l'émotion.
Mon gendre Robert Bijaoui, il est con, mais con ça va des tas de gens, hein. Comme ça va des tas de gens. Mais lui, tu peux pas savoir, le mot il a été taillé pour lui, il n'y a rien à retoucher. Tu fais un défilé de cons, il est top modèle, Robert Bijaoui.
À cheval aussi entre le one-man show et les grands classiques, puisque vous venez de reprendre l'avare au Théâtre des Variétés. On va en reparler. Puis sur grand écran, vous êtes un incontournable du cinéma français et vous allez même jusqu'à passer derrière la caméra en 2003 avec Père et Fils.
Non, j'étais venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. On va partir tous ensemble avec Max et David au Québec, voir les baleines dans 3 jours.
Mais quel honneur.
Un honneur du plaisir que j'ai à partir avec vous en vacances.
La voix de Philippe Noiret. À chaque fois qu'on la réécoute, ça met des frissons.
J'adore cette scène.
Elle est magnifique. Ouais, et le film est super.
J'adore cette scène.
Et puis, je parlais de rire et d'émotion. C'est une ligne de conduite qui vous suit au quotidien, jusque dans cet extrait culte. Vous êtes sur le plateau du Téléthon avec Claude Sérillon.
J'ai été assez malade quand j'étais petit.
J'étais très malheureux.
Ça fait rire tout le monde quand tu dis que t'étais malade petit.
Je sais. Il y a un...
Scène culte. On aura Claude Sérillon tout à l'heure, mais je vous en parlerai. Une cause dont vous serez d'ailleurs le parrain quelques années plus tard, le Téléthon en 1998. Je faisais référence au début à votre attachement à vos racines. La boucle est bouclée le 22 juin 2016, quand vous êtes fait chevalier de l'Ordre du Mérite Culturel pour célébrer votre engagement dans les rapports d'amitié entre la Tunisie et la France. Mais malgré tout, ce CV, la dernière ligne de votre bio, et ça c'est très vrai sur Wikipédia, cher Michel, dit « Il révèle être positif au Covid le 28 mars 2020. Il y a donc un an, 9 mois et 20 jours. Je ne suis pas médecin, mais je pense que la période d'incubation est passée, donc tout va bien. On est ravis de vous avoir. Michel Bougenat est notre invité. On va parler bien entendu de l'avare que vous jouez sur scène, mise en scène par Daniel Benoît. Rapidement, avant d'avancer dans l'émission, le dimanche, quand vous ne faites pas de la radio l'après-midi, qu'est-ce que vous faites le dimanche après-midi, Michel Bougenat ?
Mais je joue.
Oui.
Je joue au théâtre, on joue à 17h.
Ok, et donc le petit rituel avant, le dimanche, c'est quoi ?
Je dors.
Ouais.
Enfin, j'essaye. Je dors bien le matin, moi. Je dors pas la nuit. Donc, quand je peux rester au lit le matin, j'adore.
Harpagon, c'est votre rôle. Vous jouez l'avare. On en parle dans quelques instants sur RTL. Michel Bougenat fait son bon dimanche chaud. À tout de suite.
RTL, le bon dimanche chaud. L'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol.
Michel Bougenat joue l'avare de Molière. Ça se passe au Théâtre des Variétés. Michel, il paraît que vous avez beaucoup hésité avant de reprendre le rôle d'Harpagon. C'est vrai ?
Ben oui, parce que ça fait partie des 25 grands rôles du répertoire. On ne touche pas au sacré. Dans notre métier, il y a d'immenses acteurs qui ont joué ce rôle. De là d'où je viens, c'était pas forcément évident. Et puis surtout, il y avait une autre question en plus. Est-ce que j'allais le faire pour une espèce de revanche, genre je viens de mon accent, machin, tout ça, et que je me prouve à moi-même que je suis. Toutes ces raisons-là m'intéressaient pas vraiment. Vous savez que sur Molière, il y a plein de théories. Parce qu'finalement, on sait très peu de choses.
Oui, jusqu'à sa mort d'ailleurs.
Sa mort. On ne sait pas où est son corps.
Ouais.
Sa trace est très, très bizarre. Mmh. Enfin, on sait une chose. C'est qu'il a été formé en partie par les Italiens. Donc, c'est un grand improvisateur. Grand déconneur. Mais grand déconneur. Hein. Mmh. Il avait un acteur qui était son souffre-douleur. Le pauvre type. Chaque fois, il lui donnait des rôles où il le frappait, où il le machin et tout. On sait que quand il était sur scène, c'est un diable à quatre têtes. Il pouvait jouer dans tous les sens. Aujourd'hui, Molière peut-être ferait des one-man shows, on ne sait pas. Hein.
Peut-être.
Mais vraisemblablement, de toutes les façons, ça l'était déjà.
Mmh.
Là où c'est extraordinaire, c'est qu'il a amené une manière de jouer au théâtre qui n'existait pas, et il a fait rentrer dans le théâtre des thèmes qui n'existaient pas. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, cet homme, il attaque la religion. C'est fou. Hyper féministe.
C'est pour ça qu'il a sa mort, et puis il n'avait pas signé de renonciation à sa profession de comédien, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir de sépulture religieuse.
Mais quand vous pensez à l'école des femmes, par exemple, c'est hyper féministe.
Mmh.
C'est-à-dire, MeToo, ils lui font une statue, là, à Molière.
Puisqu'on parle des premières fois, rapidement, des premières fois de Michel Bougenat, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez posé le pied en France ?
Oui, bien sûr.
Premier sentiment, c'était quoi ? Et là, on va faire des réponses courtes.
Je ne suis pas du tout d'accord.
Ouais. Bah parce que c'est vrai que vous quittez un endroit idyllique, puis vous vous retrouvez quand même en région parisienne.
À la Croix d'Arcueil, sur la Nationale 20. Il n'y avait même pas la télé. Je passais ma journée à parier sur la couleur des voitures qui allaient arriver.
Grosse occupation. La première fois que vous avez fait rire, vous vous en souvenez ?
Non.
La première fois que vous êtes monté sur scène ?
Oui.
Stressé ?
Non. Je jouais le lion dans Songe et nuit d'été de Shakespeare, qui était une adaptation pour les enfants. On jouait dans les lycées. Et j'étais dans une carapace de lion, je me suis endormi.
Votre premier chapeau.
Ah, ça.
Quand vous jouez votre premier one-man show au Lucernaire, vous ne l'avez pas encore dans Albert, le chapeau.
Non, j'ai une chapka au début.
Ouais.
C'est un chapeau. C'est drôle parce que, vous savez, le costume des Magnifiques, qui est un costume qui est très important dans ma vie, vous savez comment je l'ai fait ?
Non.
J'étais au Splendide, je répétais. Je jouais mon premier spectacle Albert, et l'après-midi, je répétais les Magnifiques. Et je me promenais dans les coulisses et il y avait les mâles de Papy fait la résistance.
Mmh.
Et j'ai ouvert les mâles et je regardais. J'ai trouvé un pantalon de smoking. Je l'ai pris, il m'allait, je l'ai gardé. J'ai trouvé des bretelles, je les ai prises.
Ouais.
J'ai trouvé un chapeau mou, je l'ai pris. J'ai constitué mon personnage en volant parmi les costumes de Papy fait de la Résistance.
Fallait pas se tromper de costume.
Oui.
Oui. Ça aurait pu créer un léger malaise, j'aurais Michel. La casquette SS, ça serait pas ses moyens.
Oui, j'aurais pu jouer Spoons.
Première standing ovation, vous vous en souvenez?
Je me souviens de la plus belle. C'était la première des magnifiques à l'Olympia. Il y avait tous les mecs qui étaient des idoles. Il y avait Ventura, il y avait Montand. Il y avait Belmondo au premier rang. Vous savez que je rentre sur scène ce jour-là et j'ai oublié de fermer ma braguette. Oui, ce jour-là. Et j'avais une chemise rouge. Et il y avait un bout de chemise rouge qui sortait de la braguette. Et il y avait Belmondo au premier rang qui me désignait du doigt ma braguette. Et comme on avait déjà beaucoup déconné ensemble, je me disais, il veut me faire rire. Donc je continue. Et à un moment donné, je me penche quand même, j'aperçois ça. Je regarde Jean-Paul et je lui dis « Occupe-les, je m'occupe de ça. » Et ils se sont levés à la fin du spectacle. Et je garde un souvenir...
Ému, en tout cas, ça se voit.
Ouais, bien sûr. Mais c'est des moments qu'on n'oublie pas. Vous savez, j'avais signé 5 jours à l'Olympia, j'ai fait 1 mois. Bon, c'est vrai que le premier spectacle avait très très bien marché aussi, mais c'était pas pareil. Là, c'était l'Olympia.
Ouais.
Et Jean-Michel Boris... qui était le directeur de l'Olympia, parce que moi, je détestais saluer.
Pourquoi ?
Parce que je considérais que c'était fini, j'allais pas les emmerder à me pavaner sur scène. Voilà, vous êtes contents, merci beaucoup.
Tout le monde rentre à la maison. Au revoir.
D'ailleurs, quand je salue, je me dis à moi-même, mais personne l'entend, mais je dis, bon, allez, à la maison. parce que je suis gêné, parce que j'ai plus de masque.
Ouais.
Parce que le spectacle est fini.
Oui, en fait, vous êtes un peu pudique.
Un maximum. Et Jean-Michel Boris m'a été chercher dans ma loge. Il m'a dit, tu retournes. J'ai dit, quoi, je retourne, c'est fini. Il m'a fait, non, c'est pas fini. Le salut, ça fait partie du spectacle. Tu retournes. Et je suis retourné. Et après, bon, et depuis, à force, j'ai trouvé un salut à peu près comme ça. Et je fais toujours 3 saluts. Je fais jamais plus. Dans mes spectacles, ouais. À moi. Dans l'avare, c'est impossible en ce moment. Non, parce que ça marche très bien. Donc
évidemment.
C'est dingue.
Évidemment.
C'est dingue. Il y a les gars qui me disent non, retourne.
On y retourne, évidemment.
Non, mais regarde, ils sont fous.
Michel Boujna joue l'avare au Théâtre des Variétés. Il nous fait le plaisir de passer ce dimanche après-midi sur RTL. Vous n'êtes pas sans savoir, cher Michel, que vous avez beaucoup d'amis. On en a récupéré quelques-uns qui ont quelques questions à vous poser. Ce sera votre boîte à pourquoi. Vous avez raison de dire merde. restez sur RTL, c'est dans quelques instants.
Le Bon Dimanche Show, c'est tous les dimanches à la radio. Steven Spielberg plonge déjà sur la version ciné.
Michel Boujna nous fait le plaisir de nous accompagner en ce dimanche après-midi sur RTL. L'avare de Molière se joue au Théâtre des Variétés. Michel, on a dans cette émission une rubrique qui s'appelle La boîte à pourquoi. Il y a des amis à vous qui ont décidé de vous poser des questions. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par la toute première question d'un certain André Dussolier.
Michel, c'est André. Dis-moi... pourquoi tu as préféré jouer le rôle d'Harpagon dans l'avare de Molière, rôle de composition pour toi, qui est si généreux, plutôt que de jouer Batman, qui vole au secours de la population de Gotham, qui t'aurait offert un cachet conséquent, lequel cachet t'aurait permis d'acheter toute la comédie française et tous les rôles du répertoire qui vont avec? Quelle est la raison de ton choix? C'est une question de cantine?
C'est une vraie question existentielle.
Mais ça lui va bien.
Oui, parce qu'on l'habille en Superman sur un visuel. On
mais, c'est, mais personne n'est au courant, mais c'est lui, Superman.
C'est vrai?
Mais bien sûr. Il s'appelle André Clark Dussolier Kent.
Ça lui va pas mal.
Je l'adore.
Ça lui va pas mal. Bon, deuxième question. On en parlait tout à l'heure dans votre bio. C'est Claude Sérillon.
Bonjour, cher Michel. C'est Claude Sérillon. Dis-moi, pourquoi tu te poses toujours tant de pourquoi à toi-même? Pourquoi moi? Pourquoi jouer? Pourquoi faire rire? Alors qu'il y a tant de raisons de se mettre en colère. Et pourquoi choisis-tu la bienveillance? Avec mon amitié fidèle, bien sûr. Je t'embrasse.
C'est joli comme question,
j'avoue.
Il y a même des gens, ceux qui ne me connaissent pas très bien, qui pensent que je suis tellement gentil que je suis con. Mais c'est pour moi, être gentil et ne pas être con, c'est possible. l'empathie, ma famille de médecins, le plaisir de faire du bien, des trucs comme ça. Et puis peut-être une grande névrose du genre j'ai besoin d'être aimé, je sais que quand je fais rire, eh ben, les gens ils m'aiment.
Vous avez eu le syndrome de l'imposteur un peu à un moment?
La pudeur, ouais, bien sûr. J'ai toujours l'impression que l'art, c'est les autres qui le font, en tout cas. Mmh. J'ai toujours, quand je vois des gens sur scène, je les trouve toujours meilleurs que moi. Et ce n'est pas, pas de la fausse modestie, c'est sincère. Et pas tous, tous. Il y a quand même des mecs qui sont mauvais, quoi.
D'accord, très bien. Mais c'est rassurant, c'est rassurant.
Oui, oui.
Autre pourquoi, c'est Pascal Pro.
Bonjour Michel, c'est Pascal Pro. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas devenu Roger Federer, parce que vous aviez toutes les qualités pour.
Alors ça, j'ai appris en préparant l'émission, vous êtes un fou de tennis, Michel.
Oui, bah, j'ai commencé, j'habitais à 50 mètres d'un tennis en Tunisie. J'ai été formé au tennis dans le même club que Pietrangeli, qui a gagné Roland-Garros, qui a gagné la Coupe Davis, mais pour l'Italie. Ouais. Mais il a appris à jouer au tennis en Tunisie. Il y avait beaucoup d'Italiens en Tunisie. Depuis tout petit, je dormais avec ma raquette. J'ai gagné dans un tournoi, dans un des premiers tournois que j'ai gagné une raquette, une Spalding. Je dormais avec. J'avais les mains en sang, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les grips qu'on a aujourd'hui.
Oui, bien sûr, bien sûr.
J'avais les mains en sang et je continuais à jouer. Pourquoi je ne suis pas devenu Roger Federer? Bon, alors, un, je n'ai pas tout à fait son physique.
Je vous trouve extrêmement charismatique, Michel, permettez-moi de vous le dire.
Mais lui, c'est un félin sur le court, tandis que moi, je suis un chien. ensuite, je suis tombé, on va recommencer à rigoler, je suis tombé très malade en arrivant en France.
Parce que je suis dans votre voix à vous, évidemment, puis on a l'image avec Claude Sérillon à chaque fois.
Ouais, je ne voulais plus manger. Hein. Donc, j'étais déjà pas gros, mais alors, je l'étais encore moins, et je continuais à jouer au tennis, évidemment, tout le temps, sauf que comme j'avais mes muscles étaient en train de s'en aller en vacances, j'ai mes deux bras qui ont commencé à déconner, et il n'y avait pas d'opération à l'époque au point. J'étais opéré beaucoup plus tard. Et donc, voilà, j'ai pas pu devenir le champion de tennis que je rêvais, mais j'ai repris le tennis après mes opérations, je me suis réentraîné, je me suis reclassé. J'ai fait deux tournois dont j'étais très fier parce que je suis arrivé en demi-finale. Mais j'ai gagné deux fois le tournoi des personnalités de Roland Garros.
Ouais.
Mais à une époque où il n'y avait pas les joueurs qu'il y a aujourd'hui.
Ouais.
Parce que, indépendamment de mon âge, maintenant, bon, je suis à la poubelle. Vous savez que la dernière fois que j'ai joué au tennis, enfin, une des dernières fois, c'était avec Pascal Elbé et Bruno Solo.
Bruno.
J'ai fait un strike. C'est-à-dire, sur un coup, je me suis niqué la cheville, détruit le genou et fêlé une côte.
C'est bien, bravo.
Sur le même coup. Hein.
Bravo, bravo.
C'est exceptionnel de faire ça. D'habitude, juste la cheville.
C'est bien déjà.
Maintenant, moi, les trois.
C'est magnifique. Ouais.
Et donc, voilà, mais je continue à jouer, évidemment.
Vous parliez de Pascal Elbé.
Oui.
Ça tombe bien, c'est lui qui vous pose la quatrième et dernière question.
Bonjour Michel, c'est Pascal Elbé à l'appareil. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que, après la pluie.
Vous savez ça, ce que c'est ça?
Non.
Quand on écrit les pères et fils, on a vécu, j'étais avec Edmond Ben Simon, Pascal et moi. On était chez moi à Saint-Paul-de-Vence. Ouais. On a passé des moments, mais pas de kiff, mais pas de surkiff, mais de kiff-kiff.
Ouais.
Vous imaginez pas comment on a rigolé.
Mais ça dure combien de temps? Parce que je crois que l'écriture du film, ça a duré 6 ans quasiment.
Mais oui, personne pensait qu'on écrivait un film.
Mais c'est ça.
On pensait que c'était un alibi. Et qu'est-ce qu'on faisait? On se levait à 11h. On prenait un petit déjeuner.
Bateau.
Alors, non, ça c'était quand je passais sur la terrasse, que je regardais la mer, je disais, la mer elle est géniale aujourd'hui, venez on va discuter sur le bateau, tu parles. On mourait de rire, on allait déjeuner, c'est la période où j'ai le bu, à mon avis, la moitié de la Méditerranée en rosé. un jour on a défoncé le quai avec le bateau, parce que j'étais bourré, et la manette des gaz elle m'est restée dans la main, à l'époque j'avais un petit bateau. Et on allait au casino jouer au blackjack. Mais on avait 3,50 francs. Hein.
Ouais.
Et parce que moi, je déteste perdre. Et de toute façon, au casino, la seule manière de gagner au casino, c'est d'en acheter un de casino. Et donc, on allait jouer et on n'avait jamais de chance. Et vous connaissez le proverbe, après la pluie, le beau temps.
Ouais.
Okay
ouais.
Et on sort du casino et Pascal, il fait, bon, après la pluie, parce qu'on n'avait pas de chance du tout, après ouais. la pluie. Malheureux en amour.
C'est ça, faut pas vendre la peau de l'ours, non, faut pas la vendre.
Ah non, alors, ça c'est très important. Il faut pas tuer le vrai proverbe.
Ouais.
C'est faut pas tuer l'ours avant d'avoir vendu la peau. Parce que qu'est-ce que tu es con toi d'aller tuer un ours si tu n'as pas le client pour la peau. Ouais. Après tu te retrouves avec une peau d'ours, t'en as rien à foutre.
On okay est d'accord.
Et l'ours il est mort.
Ça tombe sous le sens.
Trouve un client et tue l'ours après.
Michel Boujenah est avec nous. Il fait son bon dimanche chaud sur RTL et dans quelques instants c'est Valérie Zetoun qui va venir nous rejoindre.
Il est beau, il chante bien, il sent bon, il cuisine divinement bien et pas trop épicé. Il est talentueux. Mais c'est bête, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on a pris Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
Michel Boujenah fait son bon dimanche chaud sur RTL. Il joue l'avare de Molière, c'est au théâtre des variétés. Michel Boujenah dans le rôle d'Harpagon. Michel, on m'a toujours dit Valérie Zetoun, il est producteur, jamais il viendra faire une chronique à la radio. Et puis à l'arrivée...
Un cavalier qui surgit le dimanche midi court vers l'aventure radio. Son nom, il le signe à la pointe du micro d'un Z qui veut dire Zetoun.
Valérie Zetoun, comme chaque dimanche, nous fait son petit billet d'humeur de la semaine. Bonjour Valérie.
Bonjour Bruno, bonjour Michel, c'est un plaisir.
C'est gentil.
Quel magnifique début d'année 2022, riche en polémiques, mon cher Bruno. Je récapitule les épisodes précédents pour ceux qui en auraient manqué un. Oui, je dis ceux parce que je ne peux plus blairer le « celles et ceux » qu'on nous sert à tout bout de champ comme s'il y avait un « z » entre les deux mots. Ce « celles et ceux » est aussi insupportable que la fille qui chante
« Vendez votre voiture.fr ».
Elle, quand je l'entends, j'ai plus envie de lui couper les cordes vocales avec un cutter rouillé que de vendre ma bagnole même à un prix canon. Ce « celles et ceux » est pire que ce type qui braille dans une pub pour une banque. Lui, j'ai vraiment envie de le noyer dans une flaque d'eau pour le faire taire. Mais bon, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la polémique. Il y a 3 semaines, la France s'est déchirée à cause d'un drapeau sous l'Arc de Triomphe.
C'est vrai.
La semaine dernière, c'était Gims qui ne voulait plus qu'on lui souhaite la bonne année. Bonne année, Gims. Rapport à ce que ça heurte ses convictions profondes. Et cette semaine, qu'est-ce qui a mis les Français dans la rue ? La Russie qui va peut-être déclencher une guerre mondiale en attaquant l'Ukraine ? Non. Cette prof, injustement accusée de racisme à Trappes qui a dû déménager à cause d'une fatwa numérique ? Non. Ce qui a mis les Français et surtout la classe politique dans tous leurs états, c'est le week-end de 4 jours de Blanquer à Ibiza entre le 28 décembre et le 2 janvier. Moi aussi, je trouve ça hallucinant, voire choquant. Franchement, aller à Ibiza l'hiver, c'est comme aller à Courchevel l'été. Ça ne sert à rien. Ibiza l'hiver, c'est un peu la tombe à Mouloudji. On se les gèle à 14 degrés la journée et à 5 degrés la nuit. Un temps à ne pas mettre un extasié dehors. D'ailleurs, le Pacha, le Hai et le Ushuaïa, les boîtes à la mode, sont fermées à double tour. Je précise que le Ushuaïa n'appartient pas à Nicolas Hulot. Pas de polémique, s'il vous plaît. Moi, si un pote m'invite l'hiver à Ibiza, je le raille de mes amis. Je me dis qu'il m'en veut à mort et que quand on a un ami comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. En résumé, ce pauvre Blanquer est non seulement parti s'emmerder à 100 sous de l'heure pendant 4 jours, mais en plus, ça risque de lui coûter son job. C'est moche. Alors maintenant, tout le monde cherche à savoir qui l'a balancé pour lui faire du tort. À mon avis, c'est Castex et sa détestation des boîtes de nuit. Il a imaginé Blanquer en train de s'éclater sur les derniers tubes de The Weeknd avec des mannequins et des jéroboams de champagne partout qui coulent à flot et ça l'a rendu fou. Alors qu'en fait, ce pauvre Blanquer s'est marié le week-end dernier, en toute discrétion d'ailleurs, puisque personne n'en a parlé, malgré cette grave polémique qui met toute la nation en danger. Moi, j'ai de la sympathie pour Blanquer. Un ministre de l'éducation qui va à Ibiza en week-end, même l'hiver, ne peut qu'être bonnard. Si ça se trouve, à la rentrée prochaine, les gamins vont étudier David Guetta, Skrillex ou Bob Sinclair en cours de musique. À mon avis, ils seront moins nombreux à sécher les cours que pour étudier Lully ou Salieri. Et puis si jamais il est viré, mon cher Bruno, vous pourrez toujours le prendre comme DJ Blanquert, dans votre talk show matinal sur Fun Radio. Mais attention, j'espère qu'il sera moins casqué que moi sur RTL. Sinon, je balance à tout le monde que vous allez en vacances à Saint-Tropez l'hiver. Décidément, les murs des asiles sont dans le mauvais sens. Bon dimanche chaud.
Merci Valérie. Valérie Zetoun. Z comme Zetoun, qui vient tous les dimanches. J'aimerais, cher Michel, puisque vous jouez le rôle d'Harpagon dans la pièce L'Avare, qu'on se replonge dans les années 1668, 1670, puisque on dit tous la langue de Molière, mais est-ce qu'on connaît bien la langue de Molière ? J'ai recherché des expressions que Molière aurait pu utiliser en son temps, et on va voir si vous en connaissez la signification. Par exemple, dans la langue de Molière, qu'est-ce que ça voulait dire faire l'amour à une bouteille ? Ça voulait dire coucher avec une femme rencontrée dans un bar ou ça voulait dire boire ?
Ah, d'un point de vue fantasmatique, je préfère la première solution.
Ouais, mais d'un point de vue littéral, c'est la deuxième. Dans la langue de Molière, qu'est-ce que ça voulait dire ? Danser le branle de un dedans et deux dehors. C'était avoir un coït ou avoir mal au crâne ?
Comme un coït, je ne sais pas ce que c'est, je vais dire mal au crâne.
Non, c'est un coït. Je vais vous faire un dessin. Dans la langue de Molière, qu'est-ce que ça voulait dire jouer du croupion, faire l'amour ou courir ? Tout ça est très vrai.
Je pense que c'est la deuxième, mais je me trompe peut-être.
Ouais, c'est faire l'amour.
Ouais, à chaque fois, j'en ai pas une de bonne.
Ben, surtout quand ça concerne ce genre de choses, oui. J'ai l'impression.
Oui.
Une petite dernière.
Oui, allez-y.
Allez, une petite dernière. Dans la langue de Molière, qu'est-ce que ça voulait dire décharger son toma ? Avoir un orgasme ou faire ses besoins ?
Alors, mais je vais dire avoir un orgasme.
Non, c'est faire ses besoins.
même si je ne sais pas ce que c'est.
C'est ça, moi non plus. Je ne veux pas de dessin, je ne veux pas de dessin. Est-ce que vous êtes sensible aux critiques, Michel ? Est-ce que c'est un truc qui vous touche ? Ou alors ça vous touche plus, ça vous a touché ?
Un jour, il y a dans ma loge, il y a le journal Minute. Vous voyez ? Ouais. Qui n'est pas un journal prosémite. Vous voyez, on ne peut pas dire que...
C'est pas sur celui qu'on va partir en premier, en tout
voilà,
cas.
Voilà, c'est pas Minute qui aime les bouts de boule, en gros. Bon, okay. Et il y a ma mère qui venait souvent me voir au théâtre. Elle rentre dans ma loge et elle fait « Mais tu lis Minute, toi ?» J'ai dit « Non, maman, mais il y a une critique. » Et la critique, elle était dithyrambique. Elle lit la critique, elle me regarde, elle me fait « T'es sûr qu'ils sont antisémites ?»
Dans quelques instants, ce seront les critiques du web. Je vais vous expliquer, normalement, ça devrait vous faire beaucoup rire. Michel Boujna fait son bon dimanche show sur RTL. A tout de suite.
Lundi matin, c'est pénible, il fait froid, il faut se lever, il faut aller bosser. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé le dimanche après-midi. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
L'excellent Michel Boujna fait son bon dimanche show. Michel Boujna joue l'avare. Je voudrais revenir sur les critiques du web. On a récupéré des critiques, et là en l'occurrence sur le DVD du One Man Show Enfin Libre, c'était votre spectacle de 2008. Ces critiques-là sont laissées, vous savez, comme sur les sites où on met 1, 2, 3, 4, 5 étoiles et on explique pourquoi on a aimé ou on n'a pas aimé.
Oui.
Nous, on a rajouté une petite difficulté supplémentaire, c'est que ces critiques, on les a passées dans le logiciel Google Trad. Donc là, je vais vous faire écouter des critiques, mais dans une autre langue, traduite donc du français, et vous allez me dire à l'oreille est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise critique, et puis après on découvre la critique ensemble, d'accord ? La première critique, c'est en Malayan, c'est un langage parlé en Inde, notamment à Pondichéry. Écoutez.
അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ച് വെളിച്ചം ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഷീറ്റിലെ ചുവപ്പും നീലയും സ്പോട്ട്ലൈറ്റുകളുടെ പ്രതിഫലനം ഗംഭീരമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല.
C'est une séquence, vous avez mis longtemps à la penser.
Je peux vous dire qu'on a bossé. Ouais, alors vous, après, vous... on a bossé un peu comme vous et LB sur la préparation du film. Je ne vais pas vous mentir. Et que dans ces cas-là, il y a des idées qui paraissent ouais. brillantes. Et une fois qu'on est dedans, on ne sait pas bien.
Comment vous voulez que je dise si c'est une bonne ou mauvaise critique ? Ils ont bu ou quoi ? On va dire que c'est une mauvaise critique.
Mais non, c'est une bonne. Et c'est une vraie critique posée sur Internet. La critique est la suivante. Vous la voyez apparaître derrière moi. Spectacle magnifique, en particulier la lumière. Le reflet des projecteurs, rouge et bleu sur le drap de fond de scène qui est sublime. Le reste est OK.
Effectivement, cette critique est géniale.
Et
j'ai fait un one-man show. Il y a pratiquement pas. Il y a deux effets de lumière. La seule chose qu'elle a retenue.
C'est la lumière.
C'est la lumière.
Mais vous allez voir.
Je vais téléphoner à la personne qui a fait la lumière tout de suite.
On va être que sur des critiques comme celle-ci. Critique en philippin. Ouais. Cette fois-ci, donc le français qui l'a posé s'appelle Jean-Claude Bell, mais on l'a traduit en philippin.
Mahal ko si Michelle Boujna at gusto ko sanang magkomento. Sa kasamaang palad na wala ang aking order at naghihintay pa rin ako ng refund.
C'est grand, c'est que Michel écoute, c'est joli. Et genre, je vais essayer de le traduire. C'est une bonne ou une mauvaise critique ?
Ouais, c'est une bonne critique.
Non, c'est mauvais. Et pourquoi c'est mauvais? J'adore Michel Boujna et j'aurais aimé faire des commentaires. Malheureusement, ma commande a été perdue et j'attends toujours le remboursement. du suédois maintenant, écoutez bien.
Underbar syn, speciellt ljuset. Reflektionen av de röda och blå strålkastarna på bakgrundsarket är sublime.
Bonne ou mauvaise critique?
Truffe, troc, si
vous voyez, vous le parlez couramment.
Le suédois, oui, depuis longtemps.
Évidemment.
C'est une bonne critique.
Mais oui, bien sûr, c'est une bonne critique. Très bon spectacle. Néanmoins, j'enlève une étoile, car on l'a déjà dit mille fois, cravate grise. Sur chemise claire, c'est non.
Ah oui, c'est vrai?
Ouais.
On ne met pas une cravate grise.
Je ne sais pas, c'est cette dame-là qui l'a fait. Allez, on finit avec la dernière.
Ouais.
La dernière critique a été traduite en basque.
Askeniki kuskizunombera eta inongo zakartasunik gabekoa. Kaka, zein ondo sentitzen denori.
C'est Agathe qui avait posé...
Alors, j'ai tout compris, là.
Ouais.
C'est une femme qui parle.
Ouais.
Et elle est folle de mon corps. Et elle n'en peut plus pour moi.
Donc, c'est une bonne critique.
Ah bah ouais, de
Alors,
mon corps.
Alors, pas de votre corps. Mais la critique est la suivante. Enfin, un spectacle bienveillant et sans aucune vulgarité. Putain de merde, qu'est-ce que ça fait du bien. Michel Boujna joue l'avare au Théâtre des Variétés. Il nous fait le plaisir de nous accompagner dans le Bon Dimanche Show. J'ai lu dans une interview, Michel, que avant de monter sur scène et de devenir l'excellent comédien que vous êtes aujourd'hui, et réalisateur et metteur en scène, vous avez failli faire comme papa et être médecin.
Ah oui, je voulais être médecin. Et je suis allé à la fac, je suis resté un quart d'heure.
Dans quelques instants, je vais vous faire enfiler. Alors, c'est une façon de...
Enfiler ?
C'est une façon de parler.
Non, maintenant, je suis sûr, ce type boit.
Dans un costume.
Je peux enfiler un petit peu.
De docteur, à tout de suite.
Alors moi, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je demanderais 30 minutes de RAB pour pouvoir écouter le Bon Dimanche Show. 14h, 15h30 sur RTL.
L'avare de Molière, c'est Michel Boujna qui est notre invité aujourd'hui. Il joue au Théâtre des Variétés, mise en scène par Michel Benoît. Ça se passe comment avec vos petits camarades sur scène, cher Michel?
Ça me fait
Vous êtes dans le
bien.
Partage, vous êtes quel genre d'acteur
J'ai tellement l'habitude de jouer seul que là, je me retrouve avec les autres, c'est un kiff. J'adore, on rit beaucoup. Qu'est-ce qu'on rit? Et en plus, moi, parfois j'ai des... Je me trompe, vous savez, je mélange les mots.
Ouais.
Par exemple, au lieu de dire « j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût », j'ai fait « j'ai peur qu'un homme de mon goût
ne soit pas de son âge ». Et bien, ce qui va se passer maintenant, ça va vous intéresser, puisque l'espace de quelques instants, j'aimerais qu'on revienne en arrière et on imagine que le petit Michel Boujna, il n'est pas resté qu'un quart d'heure en fac et il est devenu docteur. Et nous ouvrons le cabinet du docteur Boujna.
C'est vrai que j'ai joué un rôle de médecin, deux fois j'ai joué, mais c'est toujours des rôles très courts. Je rêve de jouer un médecin, mais...
Eh ben c'est là, vous allez le jouer maintenant. Je vais vous expliquer comment, en fait, j'ai récupéré, cher Michel, des annonces de problèmes médicaux qui sont postées sur le site Doctissimo. Doctissimo, quand on est hypochondriaque, faut pas aller le voir, parce qu'à chaque explication, on a une maladie grave. Je vais vous donner des commentaires, et puis j'aurai besoin de l'avis d'un médecin, cher docteur Boujna. Nous sommes toutes, oui, bien évidemment. Le premier message a été laissé par Virginie qui dit, alors ce sont des vrais messages, hein, vraiment.
Vrai.
Oui, j'ai regardé, les copies d'écran sont là. Bonjour, je me demandais si l'épilation du maillot à la cire peut influencer sur la virginité à force de tirer la cire. Je suis vierge et je tiens à le rester. Merci de m'orienter, cher docteur.
Mademoiselle ou madame, allez voir un psychanalyste.
D'accord, très bien. Bonjour, demain soir avec des copains, on va faire un concours de celui qui tient le plus longtemps la tête dans un sac plastique fermé. Je sais que c'est dangereux, mais j'aimerais savoir quand on doit absolument réouvrir le sac, histoire que ça reste un jeu et non un suicide collectif. Pourriez-vous m'aider et me dire quand il faut absolument retirer la tête du sac, les symptômes, etc.
Alors, quand il ne bouge plus et qu'il a fini de s'agiter,
oui,
appelez les pompes funèbres.
D'accord, très bien. Autre question. Bonjour, c'est la première fois que je poste ici. En fait, j'adore avoir des crampes. Cette douleur soudaine et incontrôlée m'excite énormément. J'aimerais savoir s'il y a d'autres fanatiques des crampes sur ce forum ou si j'ai un grave problème. Et je me mets dans des positions où je vois que ça peut le faire pour avoir une crampe et j'attends impatiemment que celle-ci survienne.
Alors, continuez. achetez-vous des cigarettes, allumez-les, écrasez-les sur la peau, vous allez voir, c'est formidable. Un fouet, un masque, et il y a des tas d'endroits où des gens vont partager ça avec vous.
Alors, ça tombe bien que vous parliez de cigarettes, cher Michel, parce que la dernière, je voulais pas la faire, mais là, vous me tendez la perche. Vraie question posée sur le site Doctissimo, cher docteur Boujna. Bonjour, je voulais savoir s'il était possible de fumer avec son anus, entre parenthèses, cigarette. Si c'est possible, comment fait-on? Si des personnes ont essayé, racontez comment ça s'est passé. Merci de vos réponses.
C'est vraiment des trucs.
Je
comme
vous
ça.
Jure, Michel, que ce sont des vrais. Ça a été posté le 9 février 2020 à 13h10 et 17 secondes.
Moi, ça me fait penser à une chose, c'est une phrase dans Les Adieux des Magnifiques. Il y a un jeune qui vient voir son grand-père et il fait Pépé, franchement, je ne sais pas comment c'était vous, votre vie à 20 ans, mais nous, aujourd'hui, c'est quand même difficile. Entre le masque pour le virus, le corona, le préservatif pour le sida, il ne nous reste plus qu'un orifice pour respirer.
Michel Boujna fait son bon dimanche chaud. Vous restez avec nous. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble. C'est le bon dimanche chaud sur RTL. À tout de suite.
RTL, 14h-15h30, c'est le bon dimanche chaud.
Michel Boujna est notre invité. Michel, vous jouez au théâtre dans la pièce de Molière, L'Avare. Vous reprenez le rôle d'Harpagon. Il avait cette particularité dans ses pièces d'avoir des personnages très marqués par des traits de caractère très très forts. Et donc on a récupéré certains personnages de Molière et on va essayer de faire un comparatif avec votre caractère à vous, si vous le voulez bien. Cher Michel.
RTL, 14h-15h30, le bon dimanche chaud. Avec Bruno Guillon.
Michel Boujna joue l'avare de Molière au Théâtre des Variétés. Il nous fait le plaisir de nous accompagner pour ce bon dimanche chaud. Dans quelques instants, je vous le disais tout à l'heure avant les infos, cher Michel, on va essayer de faire un comparatif entre vous et des personnages de Molière. Mais pour l'instant, je suis désolé, mais je vais être obligé de vous faire travailler.
Allez-y.
Oui, parce qu'il nous manque quelques infos là dans le journal de 15h. Et comme à chaque fois, avec tous les invités qui se sont assis à votre place, on va être obligé de faire le journal des infos pas développé. Bonjour, je suis Bruno Guillon.
Pardon, excusez-moi, chers auditeurs. J'étais en train de fumer mon pétard. Bonjour, je suis Michel Boujna.
Et voici les infos qui n'ont pas été développées dans le journal de 15h. Et pour commencer, télévision, pour la première fois de son histoire, l'intégralité des Jeux Olympiques Paralympiques 2024 à Paris sera diffusée sur France Télévisions. Une initiative que l'on peut applaudir dès demain, bien sûr. Pas pour ceux qui les ont toujours, évidemment.
Drogue, justement. Deux experts en toxicologie viennent de créer une cigarette électronique à la cocaïne pour aider les toxicomanes. Bon, après, on doit quand même avoir l'air con avec une cigarette électronique dans le nez.
J'avoue. Polémique suite au scandale de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Nous apprenons à l'instant que pour son prochain concert, David Guetta mixera à la Cour des comptes.
Vatican. Terrible nouvelle pour l'église avec le bras droit du pape qui a été testé positif à la Covid-19. On espère que son bras gauche va bien.
Et pour finir, on se quitte avec l'homme qui pissait dans un violon.
Oui, alors je me suis mis au piano finalement. Je trouve ça plus mélodieux. Je suis bon, hein. Et sans solfège.
C'est n'importe quoi. Dans les sons que je voulais vous faire écouter, j'ai un autre son particulier pour vous, cher Michel.
Vous voulez que je vous dise, j'ai jamais pu vous encaisser, moi. C'est ça, au plaisir, poufias. Non, mais c'est vrai, ça, quoi.
Mais de quoi tu te mêles? Enfin, c'est pas ta femme, c'est...
Ben, heureusement que c'est pas ma femme.
Philippe Noiret, dans Père et Fils, votre film. Philippe Noiret, monstre sacré du cinéma. Vous avez dû passer des moments extraordinaires.
Oh, formidable. L'élégance. Mmh. On tourne une nuit au cimetière de Montréal. La scène, c'est... Il cherche le trou où on va mettre... un cercueil le lendemain matin. La scène, c'est Noiret marche dans le cimetière. C'était magnifique. Hein. Au-dessus, au Mont-Royal, il y a toute la ville derrière. Avec les tournages de nuit, c'est toujours très beau. Il y a les bulles pour faire la lumière, enfin les camions. Tout ça, c'est de la science-fiction. La scène, c'est il marche dans le noir et il tombe dans le trou en disant « J'ai trouvé ». D'accord ? Évidemment, je ne veux pas prendre de risque que Philippe se blesse. Donc, il y a un cascadeur à qui on apprend à marcher comme Philippe. Mais les mêmes vêtements, il marche à contre-jour, donc ça fait la blague. Philippe est dans le trou. Le cascadeur tombe dans le trou et c'est Philippe qui se relève. D'accord ? On répète. Le cascadeur tombe, mais Philippe est dans le trou depuis 5 minutes déjà. Le cascadeur tombe, Philippe se relève, il regarde toute l'équipe, il y a 80 personnes. Et dans un silence magnifique, il dit « Je fais des repérages. » Tout le monde rit. Comme vous riez là. Sauf que, 2 ans ou 3 ans après, j'apprends qu'il avait déjà son cancer.
Ah oui, donc là ça prend un autre sens.
Qu'il n'était pas question qu'il en parle, évidemment. Mais c'est ça l'élégance. L'élégance, c'est d'arriver à faire rire sur une chose qu'on est en train de vivre sans que personne le sache. Moi, il me manque. On a passé tellement de moments ensemble. Il a été tellement... Quand j'avais des problèmes dans l'équipe, vous savez, c'était mon premier film. Hein. J'avais Berling, Puzzoulou et LB. Quand ils avaient des scènes à trois et qu'ils étaient déchaînés, tout le monde rigolait, mais moi, je pensais que j'allais finir le film dans 10 ans. Tellement on perdait de temps. Quand je ne savais plus quoi faire pour les calmer, j'appelais Philippe. J'ai dit, Philippe, je m'en sors pas, sois gentil. Et il faisait silence. Et là, tout le monde au garde à vous. Personne n'osait rien dire.
Mais ils ont gardé d'ailleurs cette relation un peu père-enfant après le film,
mais
en fait.
Tout le temps.
Ce truc est resté. Hein.
Mais tout le temps. Vous savez que Philippe, il est, je veux dire, c'était des jeunes comédiens. On rigole pas avec Philippe Noiret quand même, enfin, on est impressionné. Mais Pascal Elbé, tous les matins, il arrivait, il faisait c'est vous le vieux fusil c'est vous qui avez fait le film. Et l'autre, là, Pascal, il pouvait lui monter sur la tête et manger des cacahuètes, il était content. Et moi, je souhaite à tout le monde de vivre des choses comme ça, dans n'importe quel métier, au fond. J'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai quand même vécu des choses formidables.
Bah, c'est vrai qu'on a des images en tête. Là, vous parlez de Philippe Noiret. Il y a un autre monstre sacré qui nous a quitté récemment. Et j'ai l'image en tête parce que, évidemment, c'est passé 1 milliard de fois dans les bêtisiers. C'est la scène où vous êtes avec Coluche et Belmondo.
Jean-Paul. On a commencé à être copains avec Jean-Paul avant de travailler ensemble.
Ouais.
OK ? Donc, pour moi, Jean-Paul, c'est un camarade de déconnade. Parce que, et il n'avait pas de limite. Hein. Parce que d'abord, il n'avait pas de limite de moyens. Mm-hmm. Il pouvait casser un restaurant, lui. À la fin, il disait, je vous dois combien ? C'est tout. OK ? Donc il ne se pose pas la question. Et on tourne Les Misérables. Et on est dans un camion. Moi, je joue un déménageur.
Ouais.
Et moi, non, c'est lui le déménageur. Moi, je joue un avocat qui doit fuir les Allemands. Et il y a un plan qui vaut une fortune. Ça veut dire un train de l'époque. Plein de figurants. Des soldats allemands. Des machines à fumer. Une grue. Un plan qui vaut une fortune. La nuit. OK ? Triple salaire pour toute l'équipe. Et on là, c'est sur le film de Lelouch, on n'est pas 80, hein, c'est un gros machin. Il vient nous voir, Claude, et il nous dit, les enfants, soyez gentils, ce plan, il coûte cher. Pas de déconnade.
Ouais.
Claude, tu nous connais. Le plan commence, c'est un plan qui est long. Le train, il arrive, les mecs, ils descendent, les nazis, les machins, tout ça. La grue, elle tourne, machin. Elle arrive sur le camion, en gros plan, sur Jean-Paul et moi. Et la phrase de Jean-Paul, c'est moi qui lui dis, écoutez, si vous m'emmenez jusqu'en Suisse, je vous lis Les Misérables en entier, parce qu'il joue un analphabète. Et là, il devait me répondre, non, je peux pas, j'ai plein de déménagements. Ok, ça c'est tout, c'est pas compliqué. Et il me fait, non, je peux pas, j'ai plein de démangeaisons. Je pleure.
Cher Michel, vous restez avec nous. De toute façon, nous sommes là jusqu'à 15h30 et dans quelques instants, on va vous présenter Gaël Gauthier qui va faire votre portrait, mais d'une façon un peu originale, puisque c'est un portrait chanté. Restez ici, c'est sur RTL.
Alors moi, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je demanderais 30 minutes de rave pour pouvoir écouter le bon dimanche chaud. 14h, 15h30 sur RTL.
Dans quelques instants, nous parlerons de Sganarelle, de Scapin, de Chrysal, de Don Juan et autres tartuffes. Ce sera votre interview Molière, cher Michel. Michel Boujna joue l'avare actuellement au Théâtre des Variétés. Et Michel, pour la première fois aujourd'hui dans cette émission, c'est Gaël Gauthier qui vient nous rejoindre. Et elle a décidé de faire votre portrait, mais en chanson. Applaudissements pour Gaël Gauthier.
Ça va, Michel ?
Ça va.
2 minutes de bonheur.
Au mille et une couleurs, dis-moi Bruno, est-ce qu'on serait pas à deux doigts
du bonheur?
Je vais ouvrir mon cœur, un César du meilleur acteur, réalisateur et auteur et plein d'autres mots en heure. Michel Boujna. Je n'y crois pas, il est devant moi. S'il te plaît, pense-moi.
C'est qui le fait en plus?
Devrais-je parler de Jackie et Michel Boujna? Il est mon roi, mon exemple à moi. Le blagueur d'Instagram, farceur de Cédar. Question Michel, êtes-vous monogame?
Vous pouvez répondre, il y a un piège.
Non.
Oh, j'aurais tant aimé jouer votre petit bébé dans ce couffin. Oui, je sais, c'est peut-être un petit peu malsain. Complexe d'Oedipe.
Alors c'est ça.
Tel un papa, adoptez-moi. Je ferai la gnaouga en pas très gras. Je me suis renseignée.
Si, si.
Tu aimes ça, je jouerai au poker. Comme l'a conseillé ton frère, raconte-moi des histoires avant que le soir tu sois l'avare au grand cœur sous les projecteurs. Michel Boujna,
le magnifique,
c'est toi. Michel Boujna, comme un papa.
Merci qui? Merci Michel.
Et merci, merci Gaëlle, Gaëlle Gauthier. Bravo Gaëlle.
Merci, merci beaucoup.
Merci, merci Gaëlle. Sur scène actuellement Gaëlle?
Oui, tout à fait, au Théâtre des Variétés. C'est ça qui est dingue, dans les Mystérieuses Cités d'Or.
Ah,
l'après-midi. Moi, je joue l'après-midi et vous, vous jouez le soir.
Eh ben,
on se croise là-bas.
On va se croiser.
Eh ouais, exactement.
Alors, elle n'aura peut-être pas la même tenue parce que pour ceux qui ne regardent pas l'émission vidéo, elle est vraiment habillée comme Jasmine.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci Gaëlle. À vous. Merci.
Vous restez sur RTL. On va écouter tout de suite Elton John et Dua Lipa avec Hold Earth. Et dans quelques instants, eh bien, ce sera l'interview Molière de Michel Boujna qui nous fait le plaisir de nous accompagner. C'est le Bon Dimanche Show sur RTL.
RTL, le Bon Dimanche Show, l'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol. Une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Eh ben tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le Bon Dimanche Show.
Au Théâtre des Variétés, Michel Boujna joue l'avare de Molière. Alors Michel, tout à l'heure quand on a attaqué l'émission, vous disiez que vous étiez là, un staccanoviste en termes de travail. Là, vous êtes sur scène du Théâtre des Variétés. Vous bossez sur votre prochain one-man show. Et il y a également un prochain film en tant que réalisateur.
Oui, c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait à la force du poignet, qui vient d'un milieu très très pauvre.
Uh-huh.
Pour réussir dans la vie, ce qui était son objectif, sortir de la pauvreté, c'est devenu un liquidateur. C'est-à-dire qu'il prend les usines, il est vraiment
un liquidateur
morceau
judiciaire,
par morceau.
Ouais. Ouais.
Un repreneur qui un peu ce que faisait à un moment donné Tapie. Il prenait une entreprise, il achetait, il la découpait en morceaux, il vendait ci, il vendait ça, il faisait son bénéfice là-dessus. Donc c'est plutôt un fossoyeur qu'autre chose. Il a un fils unique qui le déteste parce qu'il déteste ce que fait son père, qui est rentré dans le combat avec les ouvriers, qui vit dans une caravane, et ça fait 5 ans qu'il l'a pas vu. Et il y a un hasard qui fait qu'il retrouve son fils. Mais pour renouer le lien avec lui, il va être obligé de faire semblant d'être pauvre.
Vous êtes que réalisateur ou vous jouez dedans?
Non, je ne joue pas dedans. En tout cas, ce n'est pas d'actualité. On est en train de finir le scénario. Comme d'habitude, je suis très lent. Bon, c'est comme ça.
Vous avez déjà pensé au casting?
J'ai des idées, mais je ne peux pas en parler parce qu'ils ne sont pas au courant encore. Mais Noiret disait une chose très jolie. Il disait, ne prends pas un acteur pour ce qu'il est. Prends un acteur pour ce qu'il est capable de jouer. Si moi, on me prenait pour ce que je suis, je ne pourrais pas jouer l'avare.
On va faire l'interview Molière. Vous allez comprendre rapidement, puisque vous jouez le rôle d'Harpagon. Changeons de rôle, mais toujours dans les pièces de Molière. Est-ce que, comme Sganarelle, vous vous fiez aux apparences, comme Sganarelle ou le cocu imaginaire?
Parfois, oui, hélas. Je suis naïf.
Hein. Est-ce que, comme Scapin, vous êtes avide de vengeance?
Oui, tout à fait.
C'est vrai?
Ah oui, je suis...
Vous êtes rancunier ou pas?
C'est mon super gros défaut. Ah. Pour les trucs très graves. Le mec qui m'a refusé au Conservatoire National de Strasbourg, Je l'ai croisé des années plus tard dans la rue. Il m'a dit, bah, ça vient, finalement, tu t'en es sorti. J'ai craché dessus.
Ah oui, d'accord. Oui, on peut dire que vous êtes rancunier. Est-ce que, comme Chrysal dans Les Femmes Savantes, vous êtes misogyne?
Non.
Non.
Je les adore. Je les adore et je fais la vaisselle, je fais le ménage, je fais à manger, je fais tout.
Est-ce que, bah justement, puisque vous nous dites ça, comme Don Juan, vous avez multiplié les conquêtes?
Non, mais elles sont folles de moi, j'y peux rien. C'est humanitaire, hein, moi. Moi, je rends service, c'est tout.
Est-ce que, comme Tartuffe, il vous arrive d'être hypocrite?
Sincèrement, oui. Officiellement, non.
D'accord. L'interview 5-4-3-2-1, c'est avec ceci que nous allons terminer notre rendez-vous dominical. Cher Michel, on commence par 5. Est-ce que vous pouvez me citer 5 plats réconfortants que vous aimez manger?
Alors, un plat qui s'appelle la ganaouia, qui est un plat de chez moi.
Un plat tunisien.
Les combos, c'est un ragoût. Un autre plat qui est la forme de pâte, c'est un plat italien avec des tagliatelles. C'est un gâteau de pâte. C'est que des plats de pauvres. Hein. La viande grillée, je suis un dingue de viande grillée, je sais qu'il faut pas, ça c'est pas bien et machin,
ouais.
Mais très sincèrement, un barbecue, j'adore le barbecue, j'adore. Les pâtes.
Au flambeau au cognac.
Ouais. Les spaghettis bolognaise au flambeau au cognac, c'est un monsieur qui s'appelait César, qui m'a appris à faire ça à Nice, et j'en suis dingue.
Et il m'en manque un.
Le brunch.
Le petit brunch du dimanche.
J'adore.
Avant le gin rami.
Ouais, j'adore.
4 phrases à ne jamais prononcer après avoir fait l'amour.
T'as vu comme je suis balèze? J'ai sommeil.
Ouais.
T'as pas sommeil? Et
une dernière.
On recommence.
3 choses que vous regrettez de ne pas avoir dites.
Évidemment, comme beaucoup de gens, je regrette de ne pas avoir dit à mon père plus souvent que je l'aimais. Donc je le dis beaucoup à ma mère qui, elle, est encore en vie. Je n'ai pas été assez dur avec mes enfants, je le regrette. Je ne suis pas un très bon père de ce côté-là. Je suis vraiment un peu une carpette, quoi. Ils font ce qu'ils veulent.
Et une dernière chose que vous regrettez de pas avoir dite.
J'aurais dû dire une ou deux fois dans ma vie à un metteur en scène, quand je rêvais de jouer un rôle que j'ai pas eu, parce que je me suis pas battu pour l'avoir. Je suis parti perdant.
Les deux plus grandes fiertés de votre vie.
Mes enfants.
Et enfin, un moment que vous aimeriez revivre.
La terrasse où j'étais l'été.
En Tunisie?
Oui, qui était sur l'eau. La moitié de la maison était sur l'eau. Quand je pêchais la nuit, en cachette de mes parents, et que j'attrapais un poisson, et que j'allais vite me cacher pour pas qu'on m'attrape, je pourrais plus jamais le vivre.
Merci beaucoup. Michel Boujna a fait son bon dimanche. On va vous dire au revoir dans quelques instants. Et puis on va annoncer l'invité qui sera à votre place dimanche prochain. A tout de suite.
RTL. 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show.
Merci à Karina Siammer, à Gaël Gauthier, à Agathe Deschamps, Véronique Millou, François Touchard, Valérie Zetoun, Antoine Pinault et Samy Bosque qui ont travaillé sur cette émission. Et surtout, merci à vous, cher Michel Boujna. C'était un vrai plaisir de vous avoir.
Merci à vous.
On a passé un excellent moment. On va venir vous applaudir, bien entendu, au Théâtre des Variétés. Vous jouez excellemment Harpagon dans la pièce L'Avare de Molière. La semaine prochaine, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Sur ce fauteuil, nous recevrons Gad Elmaleh.
Oh oui. Il me semble que je le connais.
Un petit message à passer à Gad, qu'on pourra lui faire écouter la semaine prochaine.
Oui. Oui, j'aimerais lui demander pourquoi il m'apprend pas à bouger comme lui, il bouge sur scène. Parce que c'est un vrai danseur.
C'est vrai, mais il a tous les talents, Gad.
Oui, et c'est très énervant. Pourquoi tu m'apprends pas à danser, enfoiré?
Le message sera dans sa boîte à pourquoi. Merci beaucoup, cher Michel Boujna, d'être passé ici dans le studio du Bon Dimanche Show.